Nous sommes au cœur de l'hiver. Nous recherchons des lumières bienfaisantes. Noël a certes été là comme occasion de mettre toutes ces lumières qui se mettent à briller la nuit. Mais l'idée que je recherche est plus générale. Je voudrais parler ce matin de la luminothérapie. Vous connaissez ce type de... C'est un traitement qui consiste à se faire éclairer, bénéficier de la lumière. Alors j'en connais certains qui n'écoutent qu'à moitié et qui vont mettre cette parole en pratique quand ils seront sur l'autoroute. Hein. Ils vont faire un excès de vitesse pour bénéficier de la lumière, du flash. Détrompez-vous, ce n'est pas de ça dont je parle. Un traitement médical utilisé dans la prise en charge des troubles du rythme circadien et des dépressions, qu'elles soient saisonnières ou non. Merci Wikipédia. Chez un marchand de lampes pour la luminothérapie, j'ai lu qu'il s'agissait, en utilisant ces lampes, bien sûr, et pas celles de ses concurrents, de retrouver une humeur joyeuse. On s'expose à cette lumière et on est joyeux et on va mieux. Eh bien, il y a une luminothérapie enseignée par Jésus avant l'heure. Je voudrais lire avec vous un texte de l'Écriture très bizarre. Pour nous, en tout cas, culturellement très décalé, mais peut-être bien précurseur. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. Je le lis dans la Nouvelle Français Courant. « Ton œil est la lampe de ton corps. » C'est là où c'est bizarre. C'est une notion... Ton œil... Je prends la lecture. « Ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. » Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Fin de citation. Alors on ne comprend pas cette expression « l'œil est la lampe du corps ». En tout cas, vous, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. Le verset 33 nous aide, juste avant... Il dit qu'une lampe est posée sur un porte-lampe, sur un chandelier, pour illuminer toute la pièce. Le corps est donc comparé à une chambre, une pièce, avec des coins et des recoins qui vont peut-être un peu rester dans l'ombre. Et l'œil est comparé à cette lampe qui éclaire cette pièce. Poussons un peu plus loin. Le corps est ici comme le symbole de la vie que l'on mène. Par exemple, c'est quelque chose d'assez général, quand l'apôtre Paul dit « offrez vos corps comme des sacrifices », il n'est pas en train de nous dire de nous immoler je ne sais quel rite. Non, pas du tout, il dit « faites de votre vie une offrande à Dieu ». Alors je vous propose la relecture suivante des versets que je viens de lire dans la traduction normale. Ton œil est la lampe de ta vie. Si ton œil est en bon état, toute ta vie est éclairée. Mais si ton œil est malade, alors ta vie est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est dans ta vie ne soit pas obscurité. Si donc toute ta vie est éclairée, sans aucun domaine dans l'obscurité, elle sera tout entière en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. On comprend ainsi que la vie que l'on mène dépend de notre œil. Si l'œil est bon, la vie sera belle. Si l'œil est malade, la vie sera malade, ou dans l'obscurité. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cet œil? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Que signifie l'obscurité et la lumière? Alors, l'obscurité et la lumière. Ne cherchons pas trop loin, c'est assez naturel pour nous aussi, l'obscurité. Qu'est-ce qu'on dirait pour donner un synonyme d'obscurité? On pourrait dire tristesse. On pourrait dire peur, colère, violence, haine, trouble, peut-être vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit. La lumière, à l'inverse, la lumière, c'est la joie, l'amour, l'espérance, la paix. Je vous propose donc la relecture suivante. Ton œil est la lampe de ta vie. Si ton œil est en bon état, et là vous êtes en train de vous dire, oui mais l'œil, 2 minutes. Si ton œil est la lampe de ta vie, je reprends la lecture, du coup vous attendrez. Si ton œil est en bon état, toute ta vie est en paix. Mais si ton œil est malade, alors ta vie connaît des troubles. Ainsi, prends garde que la paix qui est dans ta vie ne soit pas que des troubles. Si donc tu vis dans la paix, sans aucun trouble, elle sera tout entière en paix, ta vie, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Alors, cet œil, c'est quelque chose qui détermine la qualité de la vie. On pourrait peut-être le rapprocher de cette expression du XVIIe siècle, « bon pied, bon œil », qui veut dire que, quand, bon pied, c'est-à-dire on tient ferme, on est stable, et bon œil, c'est-à-dire on y voit clair. Mais ça n'a pas de rapport avec notre image, parce que notre image, c'est que l'œil éclaire la vie, le corps, comparé à une chambre. Et si on remplace le mot œil par le mot regard, hein, on dit, poser un œil bienveillant sur quelqu'un, ça veut dire lui passer pas mal de choses. Hein. Alors, on va essayer. Ça voudrait dire que ta vie est en paix si tu sais poser un regard sain sur les gens, les choses qui t'entourent, les gens surtout. Ce serait en somme, que ce que Jésus fait là, ce serait en somme un éloge de la sagesse. Si tu sais regarder, poser un regard sage autour de toi, tu seras en paix. C'est pas faux. Par exemple, Jean-Louis et Yvonne, comme on le sait, habitent une maisonnette dans un quartier tranquille. Leur maison est mitoyenne avec une autre maison assez semblable. Pour Noël, les voisins ont décoré leur maison avec toutes sortes d'illuminations, clignotantes, reclignotantes, déclignotantes, colorées, recolorées, surcolorées, des reines, des Pères Noël qui grimpent ici et qui tombent là, plein de fantaisie et de gaieté. Seulement, voilà, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mais Jean-Louis et Yvonne, eux, en discutent. Jean-Louis aime bien, Yvonne n'aime pas. Trop chargé, trop kitsch, gênant, dit-elle, ces clignotants qui clignotent jusque dans notre chambre à coucher. Sympa, joyeux, festif, dit-il lui. Quel regard Yvonne pose-t-elle sur ses voisins? Chaque fois qu'elle rentre chez elle, vous l'entendez râler, ah, quelle horreur! Mais elle oublie que ses voisins lui ont aussi apporter un paquet de bretala fait maison. Quel regard pour Yvonne aurait-il été sain dans cette situation? Et lui aurait-il apporté de la paix? Je vous laisse deviner. Jean-Louis, chaque fois qu'il rentre chez lui, vous l'entendez dire « Oh, la belle bleue !» quand le traîneau du Père Noël a sa phase de clignotement rapide en bleu clair. Et une fois rentré, il entend dire Yvonne « Je n'en peux plus de ce rouge pétant !» Et il rétorque plutôt moqueur « Ah non, là c'était bleu ciel !» Un ton entre moqueur de son épouse, qui était rouge de colère, et un ton entre moqueur et contrarié par l'intolérance de son épouse. Et il fait bondir Yvonne, et il s'en amuse, le coquin. Mais quel regard Jean-Louis porte-t-il sur son épouse à ce moment-là? Est-il finalement en paix? En tout cas, si Yvonne de son côté, Jean-Louis du sien, avait posé des regards sains sur les personnes, ils auraient été beaucoup plus en paix, quelles que soient les décorations de leurs voisins. On peut peut-être retenir ce sens, d'ailleurs, de l'expression que Jésus donne, « l'œil est la lampe du corps ». Mais est-ce bien ce que Jésus a enseigné ? Là, nous avons besoin du contexte. Dans le paragraphe qui précède, versets 29 à 32, pour les personnes qui suivent encore, Jésus se plaint de ses contemporains. Cette génération, nous disent nos traductions, les gens. Ses contemporains, les gens, voulaient un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe ? C'est quelque chose que l'on voit et qui signifie quelque chose, qui est porteur d'un message. Et les gens voulaient un signe de sa part. C'est un mot que l'on traduit parfois par miracle. Donc ils voulaient voir Jésus faire une guérison, quelque chose d'extraordinaire, comme ils avaient entendu dire qu'il l'avait déjà fait. Mais Jésus perçoit quelque chose qui ne va pas dans leur demande. Je vais vous lire encore un petit peu au-dessus dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 quand même, mais au verset 14. Jésus était en train de chasser un démon qui rendait un homme muet. Je suis au verset 14, oui. Et quand le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule fut stupéfaite. Cependant, quelques-uns dirent, c'est Belzébul, le chef des démons, qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Quelles étaient les intentions de ces hommes qui avaient des intentions mauvaises, nous dit le texte. Ce n'est pas dit là, mais on peut peut-être faire un parallèle. Par exemple, à un moment donné, c'était le sabbat. Pendant le sabbat, les Juifs ne font rien. C'est la règle. Or, Jésus avait guéri un homme. Et alors, il a fait quelque chose. Il a guéri un homme. C'est un travail. On n'a pas le droit de faire du travail le jour de sabbat. Et là, Jésus leur dit, qu'est-ce qui est le mieux, de guérir quelqu'un ? Vous êtes capable d'aller sauver l'âme de votre voisin qui est tombé dans un puits le jour de sabbat, parce qu'il faut sauver l'âme, mais quelqu'un qu'on guérit de sa main qui était paralysée, alors là il ne faut pas. Hein. Pas très logique tout ça. Jésus leur avait dit ça. Ils avaient essayé de le piéger ensuite sur cette question du respect du sabbat. Peut-être qu'on a ce genre d'ambiance avec Jésus qui refuse finalement de donner un signe. Parce que Jésus, dans le texte que nous avons, dans le texte au-dessus de celui que nous avons lu, va refuser de leur donner des signes, de leur donner des choses à voir, comme s'il était une bête de foire. Aucun signe, dit le verset 29, sinon celui de Jonas. Là, c'est pareil, on est en plein ésotérisme. Qu'est-ce que c'est que le signe de Jonas ? Les connaisseurs savent tout de suite, ils vont se dire « Ah oui, c'est l'histoire de cet homme qui a disparu dans la mer et dans un poisson pendant 3 jours et qui est revenu après. » Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire à ces hommes-là, qui veulent le piéger, qui ont des intentions mauvaises, dit-il, il ne leur donnera que le signe de sa mort et de sa résurrection. Pas de miracle avant. Des gens refusent devant les miracles de Jésus, de voir qui il est. Même en ayant constaté les signes visibles de sa divinité. Et ainsi, leur vie reste en dehors de la bénédiction que Jésus peut leur donner, sans les bienfaits qu'il donne. On comprend la critique de Jésus sur ses contemporains du verset 29. Puisqu'ils ne veulent pas reconnaître Jésus par les signes qu'il a déjà donnés, alors il ne donnera plus de signes. Les signes de Jésus sont pourtant, les miracles qu'il fait, les témoignages qu'il donne, sont aussi brillants qu'une lampe dans une pièce, verset 33. Personne n'échappe à cette lumière qui est posée sur un porte-lampe dans la pièce. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu les signes que fait Jésus au moment de l'incarnation, même ces hommes à qui il parle. Nous en arrivons à notre texte et à son sens, je crois, fondamental. Face aux signes donnés par Jésus de sa divinité, il s'agit soit de les reconnaître et de reconnaître là Jésus, l'envoyé de Dieu, soit de le laisser, de ne pas le reconnaître. L'œil qui le reconnaît, c'est l'œil qui est en bon état, en bonne santé. Dans la parole de Jésus, L'œil qui ne le reconnaît pas comme Messie, c'est l'œil qui est qualifié de mauvais. Il est intéressant de remarquer que cet œil mauvais est qualifié de mauvais, et ce mot mauvais, c'est le même mot que celui qui était utilisé tout au début de cette histoire des signes, quand Jésus disait « Cette génération est mauvaise, elle ne reconnaît pas les signes que je fais, elle n'y voit pas ma messianité, cette génération est mauvaise. » Et cet œil est mauvais, qui ne reconnaît pas la messianité de Jésus et qui n'éclaire pas de la sorte la vie que l'on mène. Si je pose aujourd'hui un regard de confiance sur Jésus, sur ce qui est dit de lui dans les évangiles, ma vie tout entière en profitera, elle en sera illuminée. Et inversement. À se demander d'ailleurs si la vie que j'ai aujourd'hui, si je la crois belle, n'est pas en réalité qu'une auto-persuasion. C'est ce que Jésus dit, il lance un défi, une mise en garde, quand il dit « Faites attention que ce que vous pensez être lumière dans votre vie ne soit en fait qu'obscurité », verset 35. On s'auto-persuade, persuade parfois qu'on va bien, et en fin de compte, c'est pour mieux se masquer certaines réalités de nos vies qui font mal. Jésus suggère donc un regard réaliste sur notre vie. Alors voilà, l'œil à la lampe de ton corps. Il s'agit tout simplement d'affirmer que la foi en Jésus fait du bien, qu'elle te donne la paix dans ta vie, comme une lampe dans une pièce. Et d'ailleurs, ce n'est pas si loin de ce premier regard que j'ai évoqué avec l'histoire ou la situation de Jean-Louis à Yvonne. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme celui qui procure, qui donne, qui est le moyen divin de la paix que je peux vivre, c'est ce savoir créature de Dieu, ce savoir aimé de Dieu, mais c'est aussi savoir que les autres sont aimés de Dieu. Et c'est porter sur les autres un regard différent, parce qu'on sait qu'ils sont créatures de Dieu comme nous le sommes nous-mêmes. L'œil est la lampe du corps. La foi fait du bien à ma vie. En disant cela, je sais très bien que parmi nous, il y a des douleurs terribles, des personnes en fin de vie, des gens qui ont vécu des drames familiaux, des soucis énormes pour l'avenir professionnel. Tout ça, je le sais. Et pourtant, je dis quand même, l'œil est la lampe du corps. D'ailleurs, Jésus lui-même n'ignorait pas toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'il pouvait avoir, qui pouvaient exister parmi les gens de son temps. Il n'était pas sur un petit nuage en train de faire des élucubrations sur la beauté de la vie en ignorant tout ce qui peut nuire à un tableau idyllique. Nous non plus. Quand nous disons l'œil est la lampe du corps, la foi fait du bien, c'est justement parce qu'elle nous permet d'affronter des situations difficiles. Quand on a mal, quand on est perdu, quand on est en colère, mais aussi quand on est en fête. Parce que l'œil et la lampe du corps, ça vaut aussi quand tout va bien. Et quand on a envie de se réjouir, parce que là, la foi nous pousse à une réjouissance plus profonde encore. Alors oui, la foi fait du bien. C'est finalement la manière dont je vous propose de traduire l'œil et la lampe du corps. La foi fait du bien. J'espère que cette phrase-là, au moins, on la conservera en mémoire et on saura la mettre en pratique. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté envers nous. Nous te remercions parce que tu t'es révélé en la personne du Christ. Seigneur, à nous maintenant de voir ou de ne pas voir, d'accueillir ou de ne pas accueillir. Chacun est responsable, Seigneur, de la lumière qu'il laisse entrer dans son corps, dans sa vie. Seigneur, je te remercie et je te prie que chacun d'entre nous repartions plein de lumière. Amen.